Bonjour à tous. Ce matin, j'ai un exercice pas facile à vous faire faire avant qu'on ouvre nos Bibles ensemble. Vous êtes prêts ? Alors, essayez de penser à celui ou à celle qui a été le plus méchant avec vous depuis votre naissance. La personne qui vous a fait la pire crasse de toute votre vie. Vous l'avez en tête ? Non ? C'est pas très agréable. Hein. C'est pas le plus facile à faire. C'est pas agréable comme exercice. Mais je vous demandais encore plus compliqué maintenant. Imaginez un seul instant que vous deveniez les meilleurs amis du monde. Ça semble dur, non ? Je ne suis pas dans vos pensées, mais j'imagine facilement que vous devez vous dire « mais impossible ». Jamais ce gars ou cette fille ne pourra changer. Jamais il ne pourra devenir mon ami. C'est impossible. C'est vrai que ça paraît complètement impossible, une histoire pareille. Et pourtant, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui était le pire ennemi de quelqu'un d'autre. Avant de changer complètement et de devenir l'un de ses plus fidèles amis. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet homme... C'est de Dieu lui-même qu'il a été le pire ennemi. C'est de Dieu lui-même qui a été le pire ennemi. Avant de changer de vie de manière radicale et de devenir l'un de ses amis les plus fidèles. Peut-être que certains parmi nous l'auront reconnu, c'est de Saul dont il s'agit. Saul qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, dont Raph vient de nous lire un extrait d'un passage. L'apôtre Paul à qui on doit à peu près la moitié du Nouveau Testament, de la deuxième partie de la Bible. L'apôtre Paul qui a écrit de nombreuses lettres à des églises qui nous parlent encore aujourd'hui. Comment cet homme, Saul, a pu changer de vie à un tel point ? Ben, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Vous pouvez ouvrir vos livres, vos Bibles ou suivre avec moi sur le PowerPoint. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 1 d'abord. Actes 9, verset 1. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et a tué les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre, et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, des chrétiens, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. À cette époque, Saul est âgé d'environ 30 ans. Il était considéré comme l'un des hommes les plus prometteurs du judaïsme, à cause de son zèle pour le défendre. Il en témoigne lui-même quelques années plus tard. En Galates 1, verset 14, il écrit « Dans la pratique du judaïsme, de la religion juive, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » Saul était tellement zélé pour la religion juive, pour le judaïsme. On pourrait dire fanatique aujourd'hui. Saul était tellement fanatique que cela l'a amené à persécuter de manière très violente les premiers chrétiens. Saul considérait le christianisme comme une menace pour la religion juive. Et son but était de le détruire. Il vouait une véritable haine aux chrétiens. Et cette haine l'a amené à prendre une part significative, dans l'exécution d'Étienne. Étienne qui est le premier martyr chrétien de l'histoire, et dans la persécution qui a suivi contre l'église de Jérusalem, la première église qui a été constituée à Jérusalem. On retrouve ça dans Actes 8, versets 1 à 3. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, les régions avoisinantes, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Voilà ce qu'était la vie de Saul. L'arrestation des chrétiens habitant Jérusalem ne suffit pas pour Saul. Ils ne s'en contentent pas. Son but est d'éradiquer complètement cette nouvelle religion chrétienne. Il veut éradiquer la foi. Et Saul a une telle haine contre les chrétiens qu'il est prêt à se rendre jusqu'aux extrémités de la terre pour les dénicher. C'est pour ça qu'il va vers le Sanhédrin, le conseil juif, le conseil religieux juif, pour demander une autorisation officielle pour aller jusqu'à Damas. Damas, vous voyez le chemin, à 200 km de là-bas, de Jérusalem. 6 à 7 journées de marche à pied, pour s'y rendre. Il part de Jérusalem jusqu'à Damas pour y débusquer d'autres chrétiens. Ça ne lui a pas suffi de persécuter les chrétiens à Jérusalem. Les chrétiens se sont dispersés, donc il va là où ils sont. Et son but, clairement, est d'aller les arrêter, de les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient jugés et mis en prison, voire exécutés peut-être. On reprend notre lecture au verset 3. Saul se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Saul se rapproche de Damas lorsqu'un événement extraordinaire va venir bouleverser sa vie. Alors qu'il est en vue de cette ville, on imagine le couteau entre les dents, prêt à faire de gros dégâts parmi les chrétiens. Une lumière éblouissante lui apparaît, le fait de tomber de cheval, au verset 3. Il entend en même temps ces mots, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comme on peut se l'imaginer, Saul est complètement abasourdi. C'est un brillant érudit, un fin connaisseur de l'Ancien Testament. Il sait qu'il est devant un être surnaturel, mais à aucun moment, il ne peut s'imaginer qui est celui qui est devant lui. Il faut bien saisir que Saul est intimement convaincu que Jésus est mort et enterré. C'est l'histoire ancienne, Jésus. Pour lui, Jésus, le chef de cette secte chrétienne, est mort. Et maintenant, il faut se débarrasser de tous ses disciples. C'est son seul objectif, finalement, dans sa vie. Saul comprend qu'il est devant une manifestation spirituelle, mais il n'a aucune idée de qui s'adresse à lui. Et c'est pour ça qu'il y a ces mots. Qui es-tu, Seigneur ? Qui est-ce ? Au moment où il a entendu cette réponse, « Je suis moi, Jésus », je crois qu'il a dû avoir froid dans le dos. Il est devant une manifestation divine qui le dépasse complètement. Jésus a décidé d'intervenir lui-même pour arrêter Saul sur le chemin de Damas, pour arrêter sa folie en lui faisant mordre la poussière. Jésus fait comprendre à Saul qu'en s'attaquant à l'Église, c'est à Jésus lui-même qu'il s'est attaqué. Que peut espérer Saul dans une telle situation ? Qu'est-ce qu'il peut bien espérer ? Il vient d'apprendre qu'en persécutant les chrétiens, il a persécuté Jésus lui-même. Il vient de saisir que Jésus est ressuscité. Et la manière dont Jésus se manifeste à lui démontre qu'il est Dieu. Il y a forcément une fraction de seconde dans l'esprit de Saul où il se dit qu'il va être balayé, jugé, comme un claquement de doigts, par un claquement de doigts par Jésus. Pourtant, ce n'est pas le cas. Jésus lui dit quoi ? Relève-toi. Relève-toi. Jésus lui dit de poursuivre son chemin jusqu'à Damas, mais l'objectif de son chemin a complètement changé. Il doit aller à Damas et c'est seulement là-bas qu'on lui dira ce qu'il doit faire. Et cela va lui être dit par qui ? Par des chrétiens, ceux qu'il a toujours haïs, ceux qu'il venait arrêter, vont venir à lui pour lui dire ce qu'il doit faire par la suite. Saul se relève donc et se rend compte à ce moment-là qu'il ne voit plus rien, il est devenu aveugle au verset 8. Il y a un contraste saisissant. À son départ pour Damas, Saul fulminait sur la route, déterminé à saisir des chrétiens, à les éliminer. Et maintenant, il est conduit jusqu'à Damas par la main, comme un petit enfant. Il est humilié. Saul entre ainsi à Damas, non pas comme l'inquisiteur redouté de tous les chrétiens, mais comme un pauvre aveugle, un homme brisé, un homme dépendant. Pendant 3 jours, Saul reste aveugle. Il attend. Il prie, ça nous est dit au verset 11. Il jeûne. Tout ce sur quoi Saul avait construit sa vie vient de tomber comme un château de cartes. Pendant ces 3 jours, il a dû beaucoup méditer sur ses choix, sur sa vie. Peut-être a-t-il repensé à Étienne, cet homme dont il avait permis l'exécution. Il a dû se souvenir qu'Étienne, juste avant de mourir, a fixé ses regards sur le ciel et a dit « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme, un autre titre de Jésus, debout à la droite de Dieu. » On retrouve ça dans Actes 7, verset 56. Saul, lui, à ce moment-là, n'a rien vu du tout. Et il est allé de l'avant pour que Étienne soit exécuté. Maintenant, c'est lui, Saul, qui a été témoin d'une vision de Christ. Qu'est-ce que Jésus lui réserve à cet homme? Qu'est-ce que Jésus lui réserve? Verset 10. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias !»« Oui, Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars. » Juste pour la petite, c'est pas le Judas qui a trahi Jésus, hein, c'est un autre Judas. « Car il prit et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Pardon. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. » Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si les écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Alors que Saul attend à Damas, Jésus apparaît à un autre chrétien en même temps, à Ananias, pour lui donner une mission bien précise. Ananias doit se rendre auprès de Saul pour lui imposer les mains afin que Saul retrouve la vue. Et Jésus lui facilite la tâche en lui expliquant exactement où se trouve Saul à ce moment-là. Devant une telle demande, Ananias exprime toutes ses craintes. Et c'est logique. Il connaît Saul, tout ce qu'il a fait contre les chrétiens à Jérusalem. On le voit au verset 13. Ses craintes sont logiques et raisonnables, normales. On peut facilement imaginer ce que pouvaient penser les chrétiens de Saul. C'est un monstre. Un monstre. Et Ananias fait justement partie de ces hommes que Saul est venu arrêter. Pour Ananias se rendre jusqu'à Saul, c'est comme aller dans la gueule du loup, clairement. Ananias sait aussi que Saul est venu à Damas avec toutes les autorisations nécessaires pour arrêter les chrétiens. On voit le verset 14. De toute évidence, les chrétiens de Jérusalem avaient prévenu ceux de Damas de l'arrivée de Saul pour venir les arrêter. Et on peut imaginer aussi que les chrétiens de Damas avaient prié pour être protégés de Saul, pour que Dieu les protège et intervienne. Mais peut-être, il ne pensait sans doute pas que Jésus allait intervenir auprès de Saul de cette manière-là. Et face aux craintes d'Ananias, Jésus le rassure en lui expliquant que Saul va devenir son serviteur comme Ananias l'est déjà. Il lui présente 2 caractéristiques importantes de la future mission de Saul. D'abord, Saul va être un témoin privilégié de Dieu vers les étrangers en particulier. Et il va avoir un ministère efficace. Vous voyez cette carte, toutes les lieux où Saul s'est rendu pour apporter la parole de Dieu, pour fonder des églises. Et en quelques années, tout le bassin méditerranéen, pour ainsi dire, va être évangélisé, va recevoir la parole de Dieu. Saul va avoir ce rôle-là, à tel point qu'un de ses adversaires va dire de lui et de ses compagnons, en acte 17, verset 6, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Saul, avec son équipe, a bouleversé le monde. Saul va devoir à son tour aussi subir la souffrance et endurer la persécution. Après avoir été le persécuteur, il va être persécuté. Une vingtaine d'années plus tard, Saul, devenu l'apôtre Paul, témoigne de ce qu'il a dû subir en 2 Corinthiens 11, versets 24 à 26. Il dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. » Saul va devenir Paul et va être le serviteur de Dieu lui aussi, comme les Ananias. Et rassuré par ces dernières paroles de Jésus à propos de Saul, Ananias décide finalement de se rendre auprès de Saul. Grâce aux indications précises de Jésus, cela ne lui prend pas forcément beaucoup de temps. C'est le GPS de l'ancien temps. Il y arrive rapidement jusqu'à Paul. Et je veux juste attirer là votre attention sur 2 choses importantes. Les gestes et les paroles d'Ananias envers Saul à ce moment-là. Et c'est incroyable. Pour Ananias, Saul, c'est le persécuteur. Et malgré les explications de Jésus, on peut penser qu'Ananias ne pouvait pas aussi facilement que ça oublier ce que Saul avait fait. Peut-être que Saul avait même arrêté des amis d'Ananias. Et pourtant, Ananias, a un geste particulier envers Saul. Comme cela lui est demandé, il impose les mains à Saul. Le geste d'imposition des mains a une valeur toute particulière. C'est un geste de communion forte, un geste d'association, d'identification. Et Ananias ose faire ce geste envers Saul, le persécuteur. Il a une parole particulière pour Saul, et ça Jésus ne lui a pas demandé. Comment l'appelle-t-il ? Mon frère. Il l'appelle mon frère. Il ose appeler frère celui qui est venu pour l'arrêter et l'emprisonner. C'est une parole très forte. Et Saul n'est plus l'ennemi à fuir, mais il est devenu le frère à chérir. De son côté, Saul ne voit pas celui qui le touche et qui lui parle, mais il a dû ressentir une vive émotion à travers ses gestes et ses paroles d'Ananias envers lui. Et Saul retrouve la vue. Et la première chose qu'il fait ensuite, c'est tout simplement de se faire baptiser, pour symboliser sa décision de placer à partir de maintenant sa confiance totale en Jésus-Christ et non plus dans la pratique de sa religion juive. Saul le persécuteur, l'ennemi numéro 1 du christianisme, au tout début de son histoire, s'est fait baptiser. Baptisé parce que c'était le signe de son changement de vie, signe de sa conversion. Peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi la conversion ? Le mot conversion signifie étymologiquement un retournement, un changement de direction. La conversion, par définition, c'est changer brusquement de direction pour marcher dans la direction opposée. C'est ça la conversion. Bref, la conversion, c'est un changement de vie complet, comme ça l'a été pour Saul. D'après la Bible, le baptême que nous allons vivre ce matin, à travers nos 2 baptisés, le baptême est le symbole visible de la conversion intérieure invisible de quelqu'un. On ne voit pas la conversion d'une personne. Le baptême est là pour rendre visibles ces choses-là. Alors bien sûr, il y a aussi une manière d'agir, une façon de faire les choses qui change, mais la conversion est intérieure et personnelle. De la même manière que Saul, Nathalie et Sophie ont décidé de se faire baptiser pour cette même raison, pour témoigner de leur changement de vie. Elles vont se faire baptiser aujourd'hui pour démontrer un engagement visible devant nous tous de quelque chose d'invisible qui a eu lieu dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur vie. la conversion. Et comme on va le voir à travers leur témoignage, les circonstances qui ont entouré la conversion de Nathalie et de Sophie sont bien différentes de celles de Saul. Les circonstances sont peut-être différentes, c'est vrai, mais il y a certains marqueurs qu'on retrouve dans la conversion de Saul, qu'on va retrouver dans la conversion de Nathalie et Sophie, qu'on retrouve dans toute conversion. Ces marqueurs se retrouvent dans le changement de vie de chacun. Ils se retrouvent dans ma propre vie, quand j'ai décidé de dire oui à Jésus il y a une vingtaine d'années. Ils se retrouvent dans la vie de plusieurs parmi nous ce matin, quand ils ont pris la décision de changer de vie. Et dans ce passage, on retrouve quatre marqueurs forts qui ont conduit Saul à la conversion et qui conduisent encore aujourd'hui des personnes à la conversion, des hommes et des femmes, à ce changement de vie intérieur et invisible, démontré ensuite par l'engagement du baptême visible. Bien des années après sa conversion, Saul, devenu l'apôtre Paul, en a témoigné de ses marqueurs dans les différentes lettres qu'il a pu écrire. Et le premier marqueur, c'est la foi dans la résurrection de Christ. Et Paul écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. » Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Pour Saul, avant qu'il n'arrive vers Damas, Jésus, c'est l'histoire ancienne. Il est mort et enterré, c'est fini. C'est la vision de Christ ressuscité qui a bouleversé sa vie à tout jamais. Nathalie et Sophie, il ne me semble pas que l'une de vous ait une révélation aussi tangible de Jésus, de la même nature que celle de Saul. Mais c'est aussi parce que vous avez foi dans la résurrection de Jésus-Christ qu'aujourd'hui vous faites baptiser et que vous êtes convertis. Si vous pensez que la vie ne se résume qu'aux quelques années passées sur cette terre, alors vous n'êtes pas prêt pour la conversion. La conversion demande à changer notre vision de la vie en réfléchissant posément à un événement qui nous touche chacun, qu'on le veuille ou non. La mort. Je peux vous dire, sans être un grand prophète, que vous allez tous mourir, comme moi-même, un jour ou l'autre. La mort, c'est un sujet qu'on évacue rapidement. J'imagine que le lundi, à machine à café au boulot, c'est pas le sujet le plus tendance. Même avec nos proches, ce n'est sans doute pas un des sujets que vous évoquez le plus facilement, la mort. Pourtant, c'est un sujet d'importance. La mort et après. Plus rien ou quelque chose? Et s'il y a quelque chose, c'est quoi? C'est parce que Sophie et Nathalie croient en la résurrection de Christ qu'elles se sont converties. C'est seulement quand on est prêt à intégrer que notre vie ne se résume pas à ces quelques années passées sur terre, mais à bien plus de choses qu'on change notre vie, qu'on change notre perspective et qu'on se convertit. C'est à partir du moment où j'ai la conviction intime qu'il y a quelque chose après la mort que je vais être capable de ne plus seulement vivre pour cette vie-là, sur la terre, mais de vivre en perspective de la vie après la mort. Deuxième marqueur fort dans la conversion de Saul, c'est la compréhension de notre besoin de Christ. 1 Timothée 1,15 Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Saul a persécuté les premiers chrétiens, et c'est dans ce sens qu'il est l'exemple type du pécheur, l'exemple type de l'homme qui rejette Jésus-Christ, qui ne veut pas de lui. Sur le chemin de Damas, Saul a compris que son attitude, ses pensées, ses paroles faisaient de lui un pécheur, un homme mauvais, un homme incapable d'être digne de Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas régler le problème de son péché par lui-même, par ses propres forces. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, de Jésus-Christ, dans sa vie. À moins que je ne me trompe, vous allez nous confirmer ça, Nathalie et Sophie, vous n'avez ni participé à une exécution injuste, illégale, ni emprisonné injustement des gens. Confirmé. Ouais, ça rassure peut-être quelques-uns parmi nous, mais c'est important de le dire. Mais même si vous n'avez pas fait des actes aussi horribles que Saul, où vous êtes quand même toutes les deux rendu compte que vous aviez un problème dans votre vie. Vous vous êtes rendu compte toutes les deux qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans votre vie. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un gros problème, que vous aviez un gros problème, comme chacun d'entre nous, avec le péché. Même si vous semblez être toutes les deux les plus gentilles filles de la terre, vous savez qu'au fond de votre cœur, il peut y avoir de l'amertume, de la médisance, du mépris. Et vous avez compris que malgré toute votre bonne volonté, vous n'arriviez pas à régler tout cela. Vous n'arriviez pas à vous en sortir tout seul. Se convertir, changer de vie de manière radicale, cela ne signifie jamais se croire supérieur. C'est tout le contraire. C'est réaliser ses faiblesses, ses erreurs, ses manquements. Heureusement pour vous deux, comme pour nous tous, Dieu écrit droit avec des lignes brisées, comme l'écrit si joliment Paul Claudel, un poète français. Dieu écrit droit avec des lignes brisées. Mais tant que je n'ai pas conscience que je suis une ligne brisée, Dieu ne pourra pas écrire avec moi. Parce que Dieu écrit droit avec des lignes brisées. Pas avec des gens ou des personnes qui pensent être droites elles-mêmes. Vous vous êtes convertis, Nathalie et Sophie. Vous avez changé de vie parce que vous avez compris toutes les deux que vous aviez besoin de Christ pour vous aider dans votre vie. Et cela a changé de manière radicale votre vie. Troisième marqueur, le désir de vivre une relation véritable avec Christ. Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Lorsque Christ s'est révélé à lui, Jésus a dit à Saul, qui le persécutait, lui. Pourtant, Saul n'était pas présent lorsque Jésus a été en procès. Il n'était pas présent lors de la crucifixion. Saul n'a jamais rien fait à Jésus, à personne de Jésus en tant que tel. Pourtant, Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » La formulation de ces paroles de Jésus démontre qu'il y a une véritable relation, une connexion entre Jésus et les chrétiens, tous ceux et toutes celles qui croient en lui. De l'autre côté, on voit qu'après que Christ se soit révélé à lui, Saul a prié. Et prier, c'est tout simplement s'adresser à Dieu comme à un ami, pour lui confier ce qui pèse sur nos cœurs, pour lui demander son aide et son soutien. Tout cela démontre qu'il y a une véritable relation qui se développe. D'un côté, Jésus se rapproche de celui qu'il aime et s'associe à lui. Et de l'autre côté, l'homme peut se rapprocher de Jésus à travers la prière. Sophie et Nathalie, vous avez toutes les deux comprises que Dieu n'était pas un vieux bonhomme sur un nuage très loin et qui regardait ce qui se passe sur terre sans vraiment trop s'en préoccuper. Non, vous avez pleinement saisi que Jésus voulait vivre une véritable relation avec vous. Et c'est pour cela que vous avez décidé de changer de vie avec son aide. Votre vie a changé parce que toutes les deux, vous avez décidé de vivre une véritable relation avec Jésus. Et pas d'évoquer un Dieu qui est très loin, qui ne se préoccupe pas de moi. Et dernier, quatrième et dernier marqueur, l'engagement à vivre sa vie pour Christ. Paul écrit en Philippiens 3, 7, « Les choses qui pour moi étaient un gain, je les considère à cause du Christ comme une perte. » Après avoir rencontré Jésus, Saul a poursuivi sa route jusqu'à Damas, mais son objectif n'était plus du tout le même. Christ est intervenu dans sa vie et ça a bouleversé Saul dans toute sa conception de la vie. Ses valeurs ont changé. Et là encore, de la même manière, Nathalie et Sophie, vous avez toutes les deux décidé de vivre pour Christ. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire simplement de chercher à mieux le connaître à travers la Bible, de chercher quelle est la volonté de Dieu dans tous les détails de votre vie. À la question « Qu'est-ce qu'un chrétien ?», James Packer, un écrivain, a répondu « Un homme qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu » et il soumet sa vie, se soumettre à la parole de Dieu. Sophie et Nathalie ont fait un choix qui n'est pas facile, mais nécessaire pour changer de vie. Elles ont toutes les deux décidé de laisser les rênes de leur vie à Jésus. Elles ont décidé de soumettre leur choix, leur décision, leur avenir entre ses mains. elles ont décidé d'avoir plus confiance en Jésus qu'en elles-mêmes. Et c'est parce qu'elles ont pris cette décision qu'elles ont été capables de changer de vie aujourd'hui. En conclusion, comme il y a près de 2000 ans pour Saul, Sophie et Nathalie vont maintenant se faire baptiser, rendre leur témoignage. Et comme pour Saul, ce baptême est pour elles le signe d'un changement de vie complet, fondé sur ces quatre marqueurs. Elles ont foi dans la résurrection de Christ. Elles ont compris leurs besoins de Christ. Elles ont décidé de vivre une véritable relation avec Christ. Et elles veulent vivre leur vie pour Christ. En écoutant les témoignages de Nathalie et Sophie qui vont suivre, en étant témoins de leur baptême, posez-vous cette simple question que je vous laisse. Et moi, où j'en suis? Et moi, est-ce que je suis prêt à changer de vie? Si vous vous interrogez, si vous êtes dans des questions sur ces sujets-là, ne les évacuez pas. N'hésitez pas à venir me rencontrer, rencontrer Raph ou quelqu'un, ou les baptiser pour en discuter. C'est un choix tellement essentiel dans la vie, parce que ça change votre vie. Amen.